Alors moi aussi, j'ai été angoissé par ce que j'ai entendu hier et je vous avoue que je ne suis pas très bien ce matin parce que j'ai passé ma nuit à surveiller le niveau du lac. Mais ça va, ça va. En tout cas, lorsque je l'ai quitté tout à l'heure, il s'était bien maintenu. Oui, si je m'assois, ce n'est pas non plus parce que je suis fatigué, mais c'est parce que je voudrais être comme vous, pas de raison, hein. Et puis c'est aussi parce que je ne vous présenterai pas des images en même temps que mon discours, si je puis dire, mais je présenterai des images après, si vous le voulez bien. De toute façon, vous avez intérêt à bien vouloir, parce que c'est comme ça que j'ai réfléchi ma participation de ce matin. Alors, je voudrais d'abord placer l'homme, placer les hommes et placer les préhumains dans le grand système que l'on a vu s'installer dès hier et que l'on verra se poursuivre cet après-midi. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu, un peu dans le sens de notre réunion science-société, un petit peu de ce à quoi peut servir la préhistoire, à quoi peuvent servir la préhistoire ou la paléontologie, un peu aussi dans le sens, dans le ton que l'on a entendu hier. Et pour terminer, selon ce que souhaitera Michel, ou bien on dialoguera, si vous le voulez bien, ou bien on passera des images, enfin le sens,
Les deux.
on verra en fonction du temps. J'ai envisagé de parler 3 heures.
En vers ou en prose?
Bon, si vous me prenez comme ça, j'arrête, j'arrête.
Tout octobre.
Alors, l'univers, si je puis dire, a été mis en place hier. Mis en place, c'est une façon de parler, parce qu'il bouge. Il a une histoire. L'astronomie est devenue une science historique. Et puis, la Terre a été mise en place aussi, elle bouge
La
même
maquille.
très vite. Elle bouge elle-même et elle bouge en son sein. Et sur cette Terre, depuis 4 milliards d'années, 4 milliards d'années, hein, ce sont des chiffres à bien se mettre en mémoire, est apparu un état plus compliqué de la matière, dont vous parlera Charles Loffrey tout à l'heure, qui est la vie. Et cet état plus compliqué de la matière, d'une certaine manière contingente, mais je n'aime pas trop ce mot et ce concept attaché à la vie, en tout cas, s'est développé dans le sens de la flèche dont il a aussi été question hier, c'est-à-dire dans le sens d'une complication de plus en plus importante et dans le sens d'une organisation chaque fois meilleure. Je veux dire par là que lorsque l'on fouille dans des terrains de 4 milliards d'années, de 3 milliards d'années, de 2 milliards d'années, on trouve de la vie, on trouve des restes d'êtres unicellulaires. Quand on fouille dans des couches de 600 millions d'années, 500 millions d'années, on trouve des êtres pluricellulaires, que l'on appelle parfois des végétaux, que l'on appelle parfois des animaux, les uns étant plus volontiers fixés, les autres plus volontiers mobiles. Et à partir de 500 millions d'années, on trouve en outre, parmi ces êtres pluricellulaires, des êtres qui ont une colonne vertébrale, une corde d'abord, qui devient colonne vertébrale bientôt, autrement dit un squelette interne. Et on commence bien sûr à se reconnaître là, à se reconnaître mieux. Et ces êtres vont sortir, certains de ces êtres pluricellulaires vont sortir de l'eau il y a seulement 400 millions d'années. Je trouve, hier, on a vu sur des courbes le temps immense qui précédait l'examen des quelques centaines de milliers d'années ou même centaines de millions d'années d'aujourd'hui, si je puis dire. Mais de telle manière que ce temps immense d'avant est souvent raccourci de manière mathématique pour que les couches courbe soit plus lisible. Mais je trouve qu'il est important de bien se mettre ça en tête, de savoir que la vie a été aquatique entre 4 milliards d'années et 400 millions d'années. Uniquement aquatique, il n'y avait absolument rien sur les continents. C'est-à-dire que Mars, dont on parlait hier, et je vous ai déjà annoncé que j'étais inscrit pour le voyage qui voudra bien me prendre, a peut-être bien en son sein de l'eau avec des éléments de vie construits sur la chimie du carbone ou sur une autre, mais qui n'a pas fini de nous étonner. Autrement dit, l'avenir sera encore plus surprenant que n'a été le passé dont je suis censé m'occuper. Donc un long temps de vie dans l'eau avant une vie dans l'air. Et cette vie dans l'air commence d'abord par des végétaux, se poursuit par des invertébrés et puis par des vertébrés. Alors les vertébrés, bien sûr, nous intéressent parce que je n'oublie pas que je suis ici pour traiter de l'homme. Et cette vie poursuit sa route, poursuit ses transformations, poursuit ce que l'on appelle son évolution, pour, chez les vertébrés, passer de certains des poissons à des batraciens, de certains des batraciens à des reptiles, de certains des reptiles à des mammifères, et parmi les mammifères à des primates et bientôt à des préhumains. Alors si je précise bien certains, c'est parce que dans certains publics aussi, la question est posée, la question suivante qui cache certains créationnismes, la question est posée de se dire pourquoi des poissons ne se transforment pas en batraciens aujourd'hui. Pourquoi il y a encore des poissons qui ne sont pas batraciens? Et bien parce que certains d'entre eux sont devenus batraciens, et puis certains amphibiens sont devenus reptiles, mais pas tous. Certains reptiles sont devenus mammifères, mais pas tous. Et il y a de cela 200 millions d'années. Et certains, parmi les mammifères, il y a donc eu ces petits primates. Alors très, très souvent, notamment pour des enfants, et ça attache beaucoup l'attention et l'intérêt des enfants, je leur dis, demandez à vos parents de vous acheter un très fort microscope et regardez votre propre peau. On en a parlé hier, vous ferez une image multipliée par un million. Dans votre petit laboratoire, vous multiplierez par 10 cette image, vous aurez donc une image grossie 10 millions de fois, et vous verrez des atomes exactement comme dans les étoiles. Alors évidemment, le petit que j'attrape au premier rang et à qui je dis ça est très impressionné, et il se demande comment il va demander ça à ses parents. Et puis, je leur dis bien sûr que s'ils achètent un microscope moins puissant et donc moins cher, ils pourront aussi regarder leur propre peau. Ils y verront des cellules, comme les débuts, les premiers êtres de l'existence, d'autant plus que ces cellules, en plus, allient des êtres entre eux. Il y a dans nos cellules ces fichues petites mitochondries qui seraient des êtres à part entière au départ. C'est quand même bizarre, ça. Hein? Ensuite, je leur dis, bien sûr, de regarder attentivement, ils verront que les cellules sont réunies entre elles, réunies sous la forme de tissus, et que ces tissus sont apparus il y a peut-être un milliard d'années, et puis que une simple radiographie leur montrera leur squelette interne comme ceux d'il y a 500 millions d'années, leurs poumons comme ceux d'il y a 400 millions d'années. S'ils se passent la main sur la peau, alors à ce moment-là, faites l'expérience, vous verrez les petits se toucher, ils sentiront un duvet et non pas des écailles, ce qui veut dire qu'ils sont des mammifères comme depuis 200 millions d'années. Alors évidemment, je leur dis à chaque fois, si par hasard vous sentez des écailles, venez me voir, ça m'intéresse. Et qu'ils ont là un petit os qui s'appelle une clavicule, et ce n'est pas du tout pour mieux étreindre leurs copains, leurs copines, leur maman ou leur petit frère, mais c'est pour mieux grimper aux arbres, et ceci s'est installé il y a 70 millions d'années pour avoir l'empattement nécessaire à grimper. Évidemment, ça ne sert plus trop à ça, à moi en tout cas. Ensuite, si ils retirent leurs chaussures, ils verront par exemple que leur gros orteil est parallèle aux autres orteils, et ceci ne s'est installé que depuis 4 millions d'années. Autrement dit, on a sur nous-mêmes, vous voyez, ce n'était pas la peine de venir m'écouter ce matin, on a sur nous-mêmes le résumé de toute cette histoire que l'on s'escrime à raconter pendant 3 jours. Et il faut simplement avoir l'équipement pour la regarder. Alors cette vie, elle s'est développée en se transformant. C'est ce qu'on a appelé d'abord le transformisme, et je trouve ce mot superbe. Ce que l'on a appelé ensuite l'évolution, je trouve ce mot moins bon, parce qu'il implique une espèce de transformation a priori, obligatoire. Et comme un être vivant ne peut être vivant que dans un milieu, un environnement, il est évident, il est devenu évident aux paléontologistes que c'était la transformation du milieu qui, souvent, la plupart du temps, peut-être pas toujours, entraînait la transformation des êtres qu'il contenait. Les êtres vivants sont en équilibre dans ce milieu. Si le milieu change, par définition, ils sont en déséquilibre. Il faut donc récupérer un équilibre. Cette récupération d'équilibre se fait en se transformant. Et il se trouve qu'à long terme, cette transformation va dans le sens de la complication dont je vous ai parlé et de la meilleure, la plus grande organisation. Alors, en ce qui concerne les humains et les préhumains, bien sûr, les humains font partie de cet immense arbre que l'on appelle phylétique, qui est aussi généalogique, des êtres vivants qui s'épanouissent depuis 4 milliards d'années. Et la date la plus importante, je trouve, la plus importante de loin de notre histoire, est la date de l'embranchement, de la bifurcation entre un rameau qui continuera son existence au sein du monde des primates, et puis le rameau qui va porter nos prédécesseurs immédiats et nous-mêmes. Et cet autre rameau, on le voit naître, autrement dit la bifurcation aussi naturellement, on la voit naître en Afrique orientale il y a 8 millions d'années. Alors j'ai l'air comme ça d'être absolu, et j'ai tort, parce que ce n'est peut-être pas 8 millions d'années, c'est peut-être 6, c'est peut-être 12. Ce n'est peut-être pas en Afrique orientale, mais en Afrique tropicale en général. Mais enfin, c'est quand même un bon ordre de grandeur. Alors j'écoutais la météorologie ces jours-ci, et j'entendais la personne qui présentait la météo dire à notre public français, mais en Suisse c'est pareil, malheureusement il ne fera pas beau cette semaine, il va pleuvoir. Donc c'est le temps sec qui est le meilleur. Hein. Malheureusement il ne va pas faire beau cette semaine, il va faire froid, donc c'est meilleur quand il fait chaud. Donc chaud et sec, c'est vraiment notre origine et le but en tout cas de nos météorologues. Et encore une fois, vous voyez, ce n'était pas la peine de venir m'écouter, il suffisait d'allumer votre télévision et d'écouter la météo ce matin, vous auriez su où était l'origine de l'homme. Alors pourquoi 8 millions d'années et pourquoi l'Afrique orientale? Parce que avant 8 millions d'années, il y a des primates supérieurs dans ces pays-là, et ces primates supérieurs sont suffisamment généralisés, je veux dire qu'ils ne sont pas spécialisés, généralisés pour être pris en considération comme ancêtres possibles des chimpanzés et des hommes, les chimpanzés étant dans la nature actuelle de loin les êtres qui nous sont les plus proches, alors que après 8 millions d'années, de ce côté-ci, vers 7-6 millions d'années, on trouve des restes qui sont en Afrique orientale clairement orientés vers une évolution qui conduit aux hommes. Ça veut dire qu'entre la forme A qui est avant 8 millions d'années et la forme B qui est après 8 millions d'années, le branchement, le carrefour dont je vous ai parlé a eu lieu, et ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Autrement, A n'aurait aucune raison de se transformer en B. Alors, je ne vais pas tout vous raconter par le menu, mais je peux vous dire que une proposition que j'avais faite et qui tient toujours a été la suivante. Il se trouve précisément qu'à 8 millions d'années, des mouvements tectoniques ont non pas cassé parce que c'était déjà fait, mais réactiver la grande faille d'Afrique orientale que l'on appelle la Rift Valley. Il se trouve qu'en même temps, cette cassure, cet effondrement, s'est accompagné d'une orogenèse. Autrement dit, il y a eu en même temps une poussée de montagnes, de hauteur, sur la rive occidentale de la faille. Il se trouve qu'à ce moment-là aussi, il y a eu 1 million d'années, la position de la Terre sur son écliptique, dont on a parlé hier, a fait qu'elle s'est un peu rafraîchie. Et ce rafraîchissement a entraîné d'ailleurs la première installation de l'Antarctique, de la calotte antarctique, pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais elle a commencé à se mettre en place. Et le rafraîchissement partout s'est traduit par un assèchement sous les tropiques. Autrement dit, il y a une raison latitudinale, une raison longitudinale, une raison altitudinale pour que 8 millions d'années soient une bonne date, si je puis dire. Latitudinalement, le rafraîchissement de la Terre a fait s'installer toute une zonation à partir de l'équateur, qui est allé d'une forêt à une savane et à un désert. Longitudinalement, le phénomène du rifting, comme on dit en français, autrement dit de la faille de l'Afrique orientale, a entraîné localement cette espèce d'isolement de l'Afrique orientale. Et altitudinalement, l'élévation de la lèvre de cette rift vallée, de la lèvre occidentale de cette rift vallée, a entraîné naturellement des perturbations topographiques qui ont entraîné des perturbations climatiques, des perturbations dans les précipitations et des perturbations écologiques consécutives. Et c'est peut-être la raison, la séparation entre une généreuse Afrique de l'Ouest forestière, entre une plus réduite Afrique de l'Est de savane, qui a fait que les êtres qui s'y trouvaient ont été soumis, ils n'ont rien fait pour et rien fait contre, ils ont été soumis à des transformations du milieu. Encore une fois, avant 8 millions d'années, la forêt était partout, en tout cas le milieu arboré était partout, et les petits primates qui le fréquentaient, on les connaît. Et à partir de 8 millions d'années, le milieu arboré est demeuré à l'ouest, alors qu'il s'est dégradé à l'est. Mais il s'est dégradé petit à petit. D'un coup, il n'y a pas eu tout d'un coup une Afrique de l'Est toute nue, sans arbres. Les arbres ont disparu et n'ont cessé de disparaître. C'est-à-dire qu'entre 8 millions d'années et aujourd'hui, il faut savoir que cet assèchement s'est poursuivi parce que la Terre aussi a poursuivi ce cycle de rafraîchissement dont a parlé Yves Lancelot hier. Et par ailleurs, comme cette ligne de hauteur de la rive occidentale de la Rift a continué à monter, la perturbation n'a fait que s'accuser. Donc l'Afrique orientale, évidemment pas de manière continue, mais de manière discontinue par crise, C'est asséché, asséché encore, et asséché encore plus, etc. Alors, si je pense, si j'ai proposé, mais je n'en sais rien, hein, c'est ça ou pas autre chose, si j'ai proposé que cette Afrique orientale et cet assèchement pouvaient avoir eu un rôle dans l'origine du rameau qui nous porte, c'est tout simplement parce que les chimpanzés, mais aussi les bonobos, qui sont les petits chimpanzés, aussi les gorilles, qui, encore une fois, nous sont génétiquement, cytogénétiquement, moléculairement, anatomiquement, physiologiquement, écologiquement, de loin les êtres les plus proches dans la nature actuelle, se trouvent être de l'autre côté de cette grande ligne de séparation, et que tous les plus anciens, j'insiste, tous les plus anciens hominidés, tous les plus anciens préhumains, sans exception, sont du côté oriental de cette grande ligne. Tous. On en trouve à 8 millions d'années, on en trouve à 7 millions d'années, on en trouve à 6 millions d'années, on en trouve à 5 millions d'années. On n'en trouve pas ailleurs. Et je vais venir à autre chose tout à l'heure, parce que ça avait été mis en doute par une découverte récente. Mais encore une fois, ça peut être mis en doute, hein. Moi, je ne suis pas du tout attaché à cette idée comme étant la vérité. En général, les vérités sont beaucoup plus complexes que cette idée, évidemment, trop simple. Et, d'autre part, on m'a dit aussi, et ce n'était pas faux, que, comme l'histoire du réverbère hier, on était allé chercher en Afrique orientale, parce que en Afrique orientale, il y avait des fossiles, et que comme le terrain était découvert, les fossiles étaient plus accessibles, c'est vrai. Quand vous allez dans la forêt, il y a une telle couche d'humus qu'il faudrait commencer par creuser pour trouver quelque chose. Et il faut courir le long des saignées, des rivières pour arriver à voir des couches géologiques et à trouver des restes intéressants. Donc, c'est vrai que l'Afrique orientale, de toute façon, a connu les premiers hominidés, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu des hominidés ailleurs. Mais ma dernière raison en faveur de cette Afrique orientale, berceau de l'humanité, c'est le fait aussi que parmi les vertébrés, par exemple, beaucoup d'entre eux ont fabriqué des espèces nouvelles grâce à des isolements, à des isolats. L'isolat que l'on appelle péripatrique, enfin, une certaine population d'une certaine espèce se trouve dans une région que l'on appelle la patrie. Et lorsqu'une petite partie de cette patrie se détache, s'isole, pour des raisons diverses, elle devient une péripatrie, ce qui est logique. Et donc la population de la péripatrie est plus petite que celle de la patrie, par définition. Autrement, on inverserait les noms. Et dans la petite patrie, le choix de gènes est évidemment moins important, et du coup apparaissent des caractères nouveaux qui étaient cachés jusque-là. Une dérive se fait, et c'est souvent l'origine, c'est souvent la raison d'une spéciation, c'est-à-dire d'une apparition d'une forme de plus en plus différente qui finalement devient une véritable espèce qui n'est plus interféconde avec l'espèce mère, avec l'espèce d'origine. Or, l'Afrique de l'Est, avec cette limitation, cette fermeture longitudinale, répond étonnamment à cette définition d'un isolement, d'un isolat, d'une péripatrie, et nous sommes peut-être donc des péripatriotes de l'Afrique orientale. Si vous adhérez à mon idée, faites-la progresser en répondant aux personnes qui vous demandent d'où vient votre famille. Vous dites évidemment, comme la vôtre, d'Afrique orientale. Puis ensuite, vous pouvez préciser que, à quelques générations de distance, évidemment, vous avez des détails complémentaires. Mais ça surprend toujours, et pourquoi pas. Nous sommes tous nés en Afrique orientale. Donc voilà, nous voilà, il y a 8 millions d'années là-bas, dans un milieu qui se découvre, et les préhumains que l'on y recueille, on les a appelés de manière très générale, et on va s'en contenter aujourd'hui, Australopithèques. Je dis de manière très générale. En fait, il y a certainement beaucoup plus de genres que le genre Australopithecus. C'est un bouquet beaucoup plus compliqué qui nous apparaît un petit peu maintenant qu'on ne l'avait pensé ou que certains ne l'avaient pensé. Et il est sûr que ce rameau s'est développé exactement comme n'importe quel autre rameau de mammifères, avec une variabilité, avec une diversité en fonction des micro-niches qui ont pu être découvertes, reconnues, habitées, occupées dans cette Afrique orientale. Alors l'événement suivant, au sein de l'Afrique orientale, qu'on ne quittera pas pour le moment, c'est celui de 4 millions d'années. Il n'est pas encore bien reconnu, mais il s'est passé quelque chose à 4 millions d'années. Sans doute un nouveau coup de sécheresse, peut-être dû à, d'une part, encore une fois, à des raisons globales de position de la Terre, de rafraîchissement de la Terre, et à des raisons locales de pousser des montagnes de l'ouest, enfin de l'ouest de la Rift Valley. Et en tout cas, il s'est passé des choses parce que dans la faune, on voit des transformations apparaître. On voit des bêtes qui existaient avant 4 millions d'années, qui n'existent plus après, qui se transforment après. Et on voit au sein de l'Afrique de l'Est, chez les hominidés, au moins une dichotomie se faire, au moins une divergence entre des formes qui demeurent arboricoles mais qui sont bipèdes aussi, et des formes totalement bipèdes. Et c'est à ce moment-là que, pour ces mêmes raisons, la savane s'étend, la savane qui était limitée, là, coincée dans l'Afrique orientale, déborde et s'étend, et elle s'étend si largement qu'elle atteint peut-être l'Atlantique à l'ouest, qu'elle atteint sans doute le Cap au sud, et le Cap de Bonne-Espérance, et que les êtres qu'elle contient, les êtres dont la savane est la niche, se déplacent avec elle, ça va de soi. Quand un milieu bouge, ce qui est dedans bouge avec. Et c'est la raison pour laquelle, curieusement, regardez comme c'est cohérent, comme c'est gentil avec moi, à 3 500 000 ans, on trouve un Australopithèque au Tchad, à 3 500 000 ans, on trouve un Australopithèque au Transvaal. 3000 km à l'ouest, 3000 km au sud, apparaissent les Australopithèques ailleurs qu'en Afrique orientale. Mais il y a déjà plus de 4 millions d'années de passé. Et durant ces 4 millions d'années passées, on a des restes en Afrique orientale. Pour celui du Tchad, on dit entre 3 millions et 3 millions 5, parce que la datation n'est pas très précise. Elle n'est que biostratigraphique, donc due à l'accompagnement faunique. Et pour l'Afrique du Sud, on dit 3 millions 300 000 ans. Vous voyez que c'est le même ordre de grandeur. Et là, la datation n'est pas brillante non plus, elle est géomorphologique. Enfin, je veux dire que c'est de l'ordre de grandeur de 3 millions à 3 millions 5, et avec ce changement de faune de 4 millions d'années en Afrique de l'Est, ça donne à nouveau une sorte de primeur, de priorité à l'Afrique orientale. Alors, en Afrique de l'Est, les deux branches dont je vous ai parlé, s'appelle l'une Australopithecus anamensis et l'autre Australopithecus afarensis. Afarensis, ça veut dire de l'afar. Anamensis, ça vient d'une langue locale qui s'appelle le turkana, et ça veut dire du lac. Anamensis a des membres supérieurs, comme les nôtres, dans ses articulations. Des membres inférieurs, comme les nôtres. C'est-à-dire un coude assez lâche et des genoux, au contraire, extrêmement solides, comme n'importe quel bipède qui a besoin de tenir sur ses pattes postérieures. Autrement, je n'aurais pas pu monter la côte ce matin. Lucie, elle, Afarensis, Australopithecus afarensis, celui de l'Afar, dont Lucie fait partie, Lucie a des membres supérieurs extrêmement solides et des membres inférieurs assez lâches, assez libres. Un genou libre, on peut pas dire, assez instable, on peut dire. Et ceci correspond à ce que l'on trouve chez les arboricoles, chez les chimpanzés par exemple, et signifie que quand on grimpe, on a besoin d'avoir des membres supérieurs très solides dont les articulations ne dérapent pas à la première traction, et on a besoin de membres inférieurs qui soient suffisamment orientables pour sauter d'une branche à l'autre dans les trois dimensions de l'espace et ne pas louper son atterrissage. Alors la petite Lucie dont on avait fait la grand-mère, en fait c'est sans doute la grande cousine, enfin ça fait rien, elle est toujours dans la famille, et je ne veux pas lui porter préjudice outrageusement, mais je pense que Afarensis est resté arboricole à 3 millions d'années, alors qu'Anamensis dès 4 millions d'années est sans doute bipède exclusif. Ce qui fait d'Afarensis l'ancêtre des australopithèques que l'on appelle robustes, ce qui fait d'Anamensis l'ancêtre des hommes. Alors, troisième grande date, 3 millions d'années. 3 millions d'années, 3 millions d'années, c'est extrêmement important comme date, extrêmement important, puisque c'est encore une fois de manière globale, au sens de globe terrestre, c'est encore une fois un événement que l'on connaît bien ailleurs, sur la Terre. Ça correspond à un rafraîchissement. Songez que en faisant des forages au fond de l'océan Atlantique, on a tiré des carottes. Ces carottes contenaient des foraminifères. Les tests des foraminifères ont été étudiés. On en a mesuré les isotopes de l'oxygène. Et ces isotopes de l'oxygène ont montré une température externe à ce moment-là qui s'était nettement rafraîchie, entre 3,3 millions et 2,4 millions. Et il se trouve qu'en Afrique orientale, on avait entre 3,3 millions et 2,4 millions précisément le même rafraîchissement, pour des raisons aussi longitudinales, aussi locales, aussi altitudinales, vous avez bien entendu. Et ceci est l'événement qui, d'une certaine manière, on va prendre ça tout à fait à la lettre, mais a fait l'homme. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le genre homo, et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît l'australopithèque robuste. Alors, de manière un petit peu caricaturale, mais c'est quand même un peu comme ça que ça s'est passé, comme d'habitude, les hominidés sont des êtres vivants. Ils sont dans un certain milieu, ce milieu change, ils changent. Et ils changent pour s'adapter, pour s'équilibrer, pour mieux être installés dans le milieu nouveau qui vient d'apparaître. Et les deux formes dont je vous parle qui viennent d'apparaître, l'australopithèque robuste, je l'appelle comme ça pour plus de facilité, et l'homme, montrent tous les deux une réaction, une belle parade, une superbe parade à ce changement qui vient d'avoir lieu. La Terre se rafraîchit, ça s'assèche, sous les tropiques et notamment en Afrique orientale. Il faut que les australopithèques réagissent. Les australopithèques afarensis, anamensis, qui sont là en place, il faut qu'ils réagissent. Eh bien, l'un va réagir en faisant l'australopithèque robuste. Qu'est-ce qu'il a, l'australopithèque robuste, comme meilleur équipement? Il a une plus grande carrure, c'est pour ça qu'il s'appelle robuste, et il a donc une dissuasion physique. C'est physiquement qu'il va dissuader, comme le gorille. Et il a un cerveau qui, lui, n'a pratiquement pas bougé, il n'en a pas besoin. Il a une dissuasion par ailleurs. Il n'y a pas d'évolution obligatoire. Hein. Mais il a une denture qui est une mâchoire, qui est un modèle pour des étudiants. C'est un moulin. C'est un vrai moulin. Ça craque les noix comme vous n'imaginez pas. ça mange les racines, ça croque les tubercules. Enfin, j'en ai pas rencontré, hein, mais j'en ai tellement imaginé que c'était des êtres, des cousins aussi. Difficile à admettre dans la famille, hein, pas très présentable.